Vous écoutez le programme Conférence sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'ULB. Le 16 novembre 2016, Sengiz Akhtar était l'invité des conférences de questions d'actualité et de société de la faculté de philosophie et sciences sociales. Sengiz Akhtar est ancien directeur aux Nations Unies et un des principaux avocats de l'intégration de la Turquie avec l'Union européenne.
Bienvenue à l'Université libre de Bruxelles et à cette conférence qui est dédiée à la Turquie nouvelle. Et je remercie d'emblée Aude Merlin d'avoir organisé ceci et surtout pour remercier infiniment Cengiz Akhtar d'avoir accepté d'être présent avec nous et de nous parler de la Turquie. Alors juste vous dire deux mots. Notre faculté a déjà à plusieurs reprises organisé des conférences sur la Turquie. Alors c'est pas uniquement le fait d'organiser quelque chose sur la Turquie, c'est aussi une préoccupation véritablement politique et intellectuelle sur l'avenir de la Turquie, en sachant d'une certaine manière que ce qui se passe en Turquie, c'est aussi une préfiguration de certaines choses que l'on voit poindre en Europe par ailleurs, qu'on voit aussi par ailleurs aux États-Unis après l'élection de Trump. Et donc, d'une certaine manière, ce n'est pas que la situation turque, mais il y a quand même des leçons aussi à voir de certaines formes de contamination d'autoritarisme qui se développent. Juste pour rappeler déjà quand même que nous sommes intervenus plus d'une fois. Nous avions invité Ahmet İnsel l'an dernier, avant les élections. On se posait la question de ce qui allait arriver après la deuxième fois où les élections ont été organisées. Nous sommes aussi intervenus de manière forte aussi, d'une certaine manière, symboliquement évidemment ou politiquement, après les effets relatifs à la pétition du 11 janvier. C'était la pétition qui avait vu un certain nombre de personnes signer donc cette pétition et qui appelait à la paix dans les territoires kurdes et arrêter aussi les bombardements dans les territoires kurdes. Et je pense que personne ne s'attendait d'une certaine manière à la première vague de répression qu'on avait connue à ce moment-là. Et l'ULB, d'ailleurs, dans son ensemble, pas uniquement la faculté, mais le conseil académique, d'ailleurs, de l'ULB, avait rédigé une motion de soutien. Motion de soutien, d'ailleurs, qui a été aussi soutenue par des présences sur place, notamment de la part de Aude Merlin, mais aussi de Thomas Berns, au moment où des procès étaient organisés. Et puis, par ailleurs, il y a eu aussi l'évolution beaucoup plus récente, après le coup d'État, et puis là, la vague massive de répression qui s'abat et qui conduit quand même à ce qu'un nombre très important de personnes ont perdu leur emploi, sont privées d'une certaine manière aussi des libertés, en particulier ce qu'on voit aujourd'hui autour de la question de la liberté de la presse. Alors, en raison des liens, par ailleurs, assez étroits que la Turquie entretient historiquement avec l'Union européenne, même si c'est toujours quelque chose qui a été excessivement complexe, surtout, je dirais, de la part des Européens, par ailleurs. Mais aussi, ce qui nous lie, par ailleurs, alors ça se passe juste parce que je connais mieux ce dossier-là, par rapport à la gestion des demandeurs d'asile et réfugiés, on sait bien qu'il y a vraiment un intérêt fondamental à comprendre ce qui se passe, mais aussi à soutenir toutes les formes de résistance qui existent aujourd'hui en Turquie, puisque pour chacun d'entre nous, que ce soit d'ailleurs des enseignants, des chercheurs, des étudiants, les liens que nous avons avec le milieu universitaire est important, mais ce n'est pas uniquement parce qu'il y a ces liens avec le milieu universitaire que nous sommes préoccupés par ce qui se passe en Turquie, mais encore une fois, parce que ce qui s'y passe est quelque chose qui donne à voir de l'image de la transformation de la démocratie telle qu'on la voit dans certains pays aujourd'hui. Donc je voudrais remercier encore une fois très chaleureusement Sengiz Akhtar d'être présent parmi nous. Je pense que c'est vraiment important, c'est important de maintenir ce lien. Je pense qu'il était important aussi pour notre faculté de philosophie et sciences sociales, qui est quand même par ailleurs souvent aussi au cœur de certaines questions de l'actualité, d'une part par les recherches qu'on mène, mais aussi par un certain nombre d'actions qu'on mène, d'être en lien permanent avec des questions d'actualité et de politique d'actualité importante, raison pour laquelle nous avons donc organisé ceci ce soir. Et je vous remercie aussi infiniment d'être nombreux, malgré l'heure un peu étrange de cette conférence, d'être aussi nombreux là ce soir, parce que je pense encore une fois qu'il est important de pouvoir écouter, débattre et aussi d'une certaine manière réfléchir à comment réagir à la situation telle qu'elle est. Je voudrais aussi évidemment remercier très chaleureusement Aline Duvivier, Greta Vermeulen, Valérie Bombard et Françoise de Tournay pour l'organisation de cette conférence. Et je cède à présent la parole à Aude Merlin qui va présenter notre conférencier de ce soir. Merci beaucoup.
Bonsoir et bienvenue à tous, chers collègues, chers amis, chers étudiants, chers Genghis et chers Andrea. Je vais être très très courte parce que je pense que c'est évidemment notre invité et ami Genghis Akhtar que vous êtes venu écouter. Je voulais simplement remercier le doyen Andrea Rea d'avoir suivi cette proposition de faire de la conférence inaugurale de la faculté une conférence dédiée à la Turquie. Et il est vrai que chaque jour apporte son lot de mauvaises nouvelles sur la situation en Turquie. Donc au début, en janvier, lorsque nous nous sommes mobilisés, et là je parle en tant que représentante du corps académique de l'ULB, puisque la Turquie n'est pas mon champ de recherche directement, je travaille sur la Russie et le Caucase, mais dès janvier, avec les premières répressions qui se sont abattues sur les signataires de la pétition pour la paix, nous avons décidé au sein du corps académique de nous mobiliser. Et hélas, La pertinence de cette mobilisation ne s'est pas démentie, puisque depuis la tentative de coup d'État du 15 juillet, vous savez tous que chaque jour apporte donc son lot de mauvaises nouvelles. Il suffit de suivre le site Turkey Purge pour voir le nombre de journalistes en détention augmenter, le nombre de chercheurs, de collègues, d'académiques qui perdent leur emploi augmenter également. Hélas, le nombre d'universités qui ferment également augmenté, 19 à ce jour je crois, 6000 enseignants-chercheurs qui ont été expulsés de leur emploi, 186 titres de presse fermés, 146 journalistes derrière les barreaux, enfin voilà, la liste et les chiffres sont éphémères puisqu'ils ne cessent d'augmenter. Je voulais donc simplement vous informer que sur le site de l'ULB, ULB Solidaire, vous avez aussi un recueil des différentes initiatives que l'ULB a décidé de prendre en faveur de nos collègues de Turquie et de façon générale aussi, comme le disait Andrea, en faveur de la liberté académique, de la liberté d'enseigner, de la liberté de penser, de parler et de chercher, et qui nous touche aussi, bien évidemment, puisque ce qui se passe en Turquie n'est absolument pas étanchement détaché, disons-nous, de ce qui se passe ici en Europe. On le voit, hélas, avec des tendances à l'œuvre dans différents pays de l'Union européenne, dès lors qu'un état d'urgence est instauré. Je vais présenter notre ami Genghis Akhtar en quelques mots. Genghis a une histoire avec l'ULB puisque nous l'avions vu. Alors il est venu en 2004 pour parler de l'Europe avec Jean-Marc Ferry à l'ULB. Voilà, ça nous renvoie à d'autres temps et d'autres heures. En 2010, nous avions la chance de l'écouter aux côtés de Serge Avedikian qui présentait son film « Nous avons bu la même eau ». Et Genghis Akhtar est un grand intellectuel turc qui a initié avec Ahmet İnsel notamment la pétition du pardon aux Arméniens, donc dans la société turque, et voilà un moment où il y avait cette petite fenêtre possible de développement d'une parole autour de cette question. Nous avons à nouveau écouté Genghis Akhtar en mai 2013, là pour un exposé qui s'intitulait « La Turquie, cavalier seul ?» Point d'interrogation. Et ce soir, la conférence s'intitule « Déchiffrer la Turquie dite nouvelle », puisqu'il est évident que pour agir, il faut d'abord penser, réfléchir, prendre du recul, se remettre dans une perspective historique, avoir des informations de première main. Et donc, nous avons besoin de votre réflexion, de vos analyses pour éclairer le débat et l'enrichir. Merci beaucoup, Genghis. Merci.
Bonsoir, ça fait toujours chaud au cœur d'être à Bruxelles, contrairement au temps. C'est ULB, comme Maud Merlin l'a rappelé, c'est un lieu privilégié pour moi et j'hésite jamais quand on m'y convie. Je remercie André Rea, Aude Merlin, toute l'équipe qui a organisé ma venue et cette conférence. Et je salue tout le monde dès à présent. Aude l'a souligné, je vais tenter de vous donner des repères par rapport à cette Turquie. Pourquoi on en est arrivé là? Comment lire la Turquie aujourd'hui? À quoi ça rime quand on parle de la Turquie nouvelle, Yeni Türkiye en turc? Les kémalistes utilisaient déjà cette formule dans les années 20. Ils disaient la nouvelle Turquie. Il y avait même des publications en langue étrangère, à l'époque en français, bien sûr. Puis c'était une revue qui s'appelait La Nouvelle Turquie, parce que c'était des révolutionnaires, et c'est pareil, alors on a un peu le même langage aujourd'hui, mais il faut vraiment y voir afin d'y voir un peu plus clair, il faut voir à quoi ça rime cette Turquie, est-ce qu'elle est vraiment nouvelle. Alors je vais essayer de poser des jalons par rapport à ça, pour vous inviter à réfléchir de façon à cerner cette curiosité qui s'appelle la Turquie nouvelle, n'est-ce pas ? Alors, je commencerai bien sûr par l'histoire. Alors, historiquement parlant, l'islam politique ou les islamistes qui gèrent aujourd'hui le pays, est-ce que c'est la première fois qu'ils sont au pouvoir ? Est-ce que c'est la première fois qu'ils tentent de diriger ? Eh ben non. C'est une très vieille affaire qui a exactement 2 siècles. Ça remonte aux grandes réformes occidentalisantes de l'Empire ottoman au début du 19e siècle. Époque pendant laquelle toutes les congrégations, les tariqas comme les djemaa, ont été jetés à la porte et ont dû quitter le centre du pouvoir. Et depuis, ils n'ont jamais cessé d'essayer d'y revenir. Donc ça, c'est vraiment un phénomène fondamental. C'est pas nouveau. Ils ont chaque fois, par tous les moyens, essayé de revenir aux commandes. En fait, ils n'étaient plus les conseillers du prince à partir du début du 19e siècle. Le grand réformateur de l'époque, le sultan Mahmoud II, dont la mère était française, eh bien, et sa langue, du coup, était le français, eh bien, on l'appelait le Gavur Padishah, c'est-à-dire le sultan mécréant, tellement il était pro-occidental et faisait des réformes pro-occidentales. C'était le début de l'occidentalisation de l'Empire ottoman. C'est un peu comme Pierre le Grand, mais un siècle avant, n'est-ce pas ? Donc, les congrégations qui ont été évincées du cœur de l'État ont toujours tenté d'y revenir. Alors, aussi bien la congrégation, le Jemaa Gulen, comme les Naqshbandi, les Nour, etc. C'est comme ça qu'il faut les situer déjà, n'est-ce pas ? Ils veulent venir au pouvoir pour diriger le pays. Donc ils n'ont jamais... Et c'est tout à fait normal. Je veux dire, c'est pas... historiquement parlant, c'est tout à fait normal qu'ils essayent de revenir au cœur de l'État, parce qu'ils ont toujours considéré que ça leur appartenait. Hein. Ce phénomène, il ne faut pas oublier, historiquement parlant, c'est ces congrégations qui tentent de reconquérir l'État, eh bien, restent très turco-turc. Hein. C'est très local. C'est pas l'islam politique turc n'a pas vraiment ses racines dans les grands penseurs de la confrérie musulmane, enfin, des frères musulmans, les Hassan al-Banna, les Seyyed Qutb, etc. Pas du tout. C'est très local, c'est très anatolien en quelque sorte. Et d'ailleurs, on va voir, et du coup, très nationaliste aussi. C'est malgré les prétentions à la Jamaa, c'est-à-dire malgré les prétentions à la solidarité musulmane supranationale, n'est-ce pas ? Alors ça, c'est pour l'histoire. Alors évidemment, je peux rajouter une petite note justement à l'intention de mes amis. Slaviste, eh bien, les tensions qu'on a toujours depuis Pierre le Grand en Russie entre les Zapadniki et les slavophiles existent quasi identiquement en Turquie et au cœur de l'État. On en est encore là aujourd'hui. Évidemment, ça ne s'appelle pas comme ça, mais ça s'appelle les occidentalisants, les batteux, etc. Donc, c'est le même dilemme y est. Alors, sociologiquement parlant, Alors du coup, donc, pour finir avec l'histoire, on peut en parler pendant des heures, historiquement, franchement, rien de nouveau. Turquie nouvelle, ça ne veut absolument rien dire. Donc, sociologiquement parlant, deuxième point que je voudrais développer, oui, là, il y a du nouveau. Là, il y a du nouveau. Et il faut bien situer ce mouvement... tenu maintenant, géré par l'AKP, moi je situe son début en 1983. 83, après le coup d'État des militaires de 80, le retour à la démocratie, mais en même temps, on voit à cette époque-là l'apparition sur la scène politique, mais avant la scène politique, la scène sociale ou sociétale de deux forces majeures qui, jusqu'à présent, depuis le début de la République, ont été systématiquement marginalisées, à savoir les musulmans sunnites et les Kurdes. J'aime beaucoup le concept « empowerment ». C'est à cette époque-là que ces deux grands groupes, évidemment, il y a beaucoup de chevauchements entre eux, etc., mais si on peut parfaitement les prendre donc séparément, ils commencent à apparaître comme des forces sociales et politiques. Évidemment, les Kurdes ont pris un chemin différent. La création du PKK, c'est 1984, n'est-ce pas ? Donc c'est un chemin différent, c'est un chemin violent. Et les autres, l'islam politique représenté par les grands-pères ou les pères des dirigeants AKP aujourd'hui, eh bien, ont commencé par les municipalités, justement. Qu'ils ont commencé petit à petit à conquérir un peu partout en Turquie et commencer à faire d'abord donc du local pour lentement venir vers le cœur de l'État. Ce sont des mouvements centrifuges, les deux d'ailleurs, hein, mais les Kurdes, c'est pas notre sujet pour aujourd'hui. Mais l'islam sunnite, un mouvement centrifuge. Qui challenge, bien sûr, qui lance un défi à l'État hyper centralisé qu'on appelle la Turquie. C'est un mouvement qui correspond à quelque chose, n'est-ce pas, à une réalité. Et cette réalité-là, eh bien, ce sont ces masses sunnites qui ont toujours et systématiquement été marginalisés, exclus de la chose politique, de l'espace politique depuis la création de la République. C'est ni bien ni mal, mais c'est comme ça. Je ne discute pas du bien fondé. On peut aller dans les débats sur le laïcisme, sur la laïcité à la Turque, etc. Mais ce n'est pas le sujet. Donc, c'est un mouvement qui a du répondant sur le terrain, n'est-ce pas, au niveau de la société. Je pense que c'est très important. Alors, de fil en aiguille, toujours sous le chapitre sociologique, eh bien, il faut savoir que la Turquie, ce pays, est hyper, non seulement centralisé, mais hyper urbanisé. Le taux d'urbanisation de la Turquie dépasse les 80%. C'est beaucoup plus fort qu'en Europe. C'est énorme. Il y a plus personne dans les campagnes. Donc une urbanisation féroce qui a commencé dans les années 50 et qui n'arrête pas, qui continue encore aujourd'hui. Très en rapport avec le modèle économique choisi, à savoir la liquidation de l'agriculture. La Turquie a été un pays, c'est une parenthèse, il faut le savoir, c'est important, c'est un des 10 ou 12 pays autosuffisants de la planète. Elle est maintenant importatrice nette de produits agricoles. Ouais. malheureusement. Alors, ces populations, c'est qui? C'est des anciens paysans, c'est des anciens paysans, bien sûr, très proches de la terre, très proches de leurs mœurs, totalement perdus dans la jungle citadine, et qui, forcément, se cherchent des repères. Et voilà le repère, l'islam politique, hein, qui leur permet de s'exprimer et de dire qu'ils sont bel et bien là. Alors, ce mouvement, ces clients étant là, les clients étant là, ça se traduit par par la politique clientéliste, bien sûr. Hein, clientéliste aussi bien au niveau donc des réseaux sociaux qui existent au niveau des municipalités, petites ou grandes, et depuis 14 ans. Depuis 14 ans, c'est-à-dire depuis que l'AKP est au pouvoir, en phagocytant systématiquement structures et les systèmes d'aide sociale qui existent en Turquie et qui, aujourd'hui, pour avoir droit à l'aide sociale, j'exagère à peine, eh bien, il faut le blanc-seing du représentant du parti local, hein, sinon rien. Un système très bien rodé, c'est un système qui doit normalement fonctionner sans l'empreinte politique, mais malheureusement, c'est, comme je dis, phagocyté totalement par l'État. On évalue à peu près à 18 millions le nombre de citoyens qui touchent des subsides, enfin, sous forme d'aides sociales très diverses, bien sûr, à travers et en passant par les réseaux du parti au pouvoir. Alors, clientélisme, je veux dire, on peut faire un cours magistral là-dessus, je veux dire. Donc, alors là, de là, on arrive évidemment à un rapport, toujours sociologiquement parlant, un rapport très ambigu entre le centre du pouvoir, entre le pouvoir et ce peuple qui en profite, n'est-ce pas? C'est un peuple qui vote, forcément, qui vote, ça aussi c'est très contrôlé, qui vote l'AKP. Je ne parle pas des élections toutes récentes, je parle de pratiquement de toutes les élections depuis 2011, sinon 2007, que ce parti a emporté haut la main. Je vais revenir sur le chapitre politique, mais avec une appellation maintenant qui s'installe de plus en plus. Ces gens qui votent l'AKP, ces gens qui sont les obligés de l'AKP, n'est-ce pas, à travers les réseaux économiques, d'aide sociale, ou alors à travers le public procurement, enfin les marchés publics, n'est-ce pas, c'est petit ou grand. Donc il y a toute une masse qui vivent et à travers l'AKP, eh ben on les appelle les nationaux, les millis, la milla, et tout ce qui ne correspond pas ou qui n'en profite pas ou qui est dans l'opposition, c'est des non-nationaux, des non gayri milli, comme on dit en turc. Alors résultat aujourd'hui, eh bien la Turquie nouvelle, hein, c'est ça, c'est la Turquie nouvelle, ça c'est vraiment nouveau, eh bien un soutien colossal qui est évalué par tous les instituts de sondage à peu près à 60%, 60-65%. Évidemment, ces 60-65% se traduisent d'emblée dans chaque consultation électorale, hein, que ce soit des élections ou les référendums. Donc, historiquement parlant, rien de nouveau, mais sociologiquement parlant, oui, un soutien de masse très important qui n'a jamais existé dans l'histoire de la République. Alors, troisième volet, économie. Alors, économiquement parlant, est-ce qu'il y a du nouveau dans cette Turquie nouvelle? Eh bien, non. l'islam politique n'a strictement rien de nouveau en matière de politique économique. C'est des bêtes, enfin, il suit les bêtes canons du néolibéralisme le plus fade, n'est-ce pas? Et la manifestation, je crois, la plus frappante, sinon tragique, de cette vision ou de cette manque de vision, c'est le mépris écologique et culturel. La Turquie aujourd'hui subit vraiment de plein fouet une très vaste destruction à la fois de son parc naturel, son parc culturel et urbain, parce que ce piètre schéma économique est basé sur la construction, le bâtiment. Quand le bâtiment va, tout va, c'est pas tellement vrai, et les énergies fossiles. Franchement, économiquement parlant, il y avait pratiquement rien de nouveau dans l'horizon, quelque chose qui diffère de ce qu'on voit aussi bien dans les pays en développement que dans les pays développés. Alors, quatrième volet, la politique. Politiquement parlant, est-ce qu'il y a du nouveau? Est-ce que l'islam politique a réussi à développer un autre paradigme que les paradigmes classiques qu'on a vus en Turquie depuis la période, donc depuis la création de la République, mais aussi avant, c'est-à-dire depuis les deux époques de monarchie constitutionnelle qui ont démarré plus ou moins après les grandes réformes dont j'ai parlé tout à l'heure, donc en 1838-39, aboutissant à la première constitution de 1876 et culminant avec l'arrivée au pouvoir du parti Ittihat et Terakki, Union et Progrès, le grand homogénéisateur et inventeur de la nation turque. Alors, est-ce que l'islam politique en diffère vraiment ? Eh bien, pas tellement. Ils reproduisent exactement les mêmes schémas et les adjectifs qu'on pourrait utiliser à leur égard, c'est exactement les mêmes que pour leur grand-père ittihadiste, savoir les donc un nationalisme, un jacobinisme, centralisme, majoritarianisme, c'est donc copié quasiment à l'identique, et chérissant l'État, utilisant et en fait profitant à fond, sans vouloir changer un iota à ce système patrimonial et paternaliste de la chose politique qui existe en Turquie, donc reproduit à l'identique, une fois que ce mouvement qui a sa base sociologique dans la périphérie est venu s'installer au cœur de l'État. Donc politiquement, rien de nouveau à l'horizon, sous le soleil, à tel point que donc ce clientélisme qui a toujours été donc qui a toujours existé dans la République depuis l'annihilation de la seule des seules bourgeoisies qui ont pu prospérer au XIXe siècle, à savoir les bourgeoisies arméniennes et grecques, eh bien depuis ce temps-là, l'État a toujours voulu il fallait inventer une bourgeoisie, et en inventant une bourgeoisie, on se l'attache, ça devient des obligés, hein, de l'État. Donc c'est pas ce clientélisme n'est pas seulement au niveau de la société, mais aussi au niveau de la société prise vraiment dans son ensemble, qui va de l'ouvrier de base jusqu'au grand bourgeois qui prospère grâce au marché public. Voilà, un remodelage, une reproduction plutôt à l'identique des mots classiques, sempiternels, antédiluviens de la politique turque, c'est-à-dire le ittihadisme, qui a inventé la nation, comme je disais, et dont les kémalistes et les républicains ont été les héritiers directs. Je voudrais revenir très rapidement sur l'économie, parce que j'ai omis de vous parler par rapport à des faiblesses structurelles de l'économie turque. C'est important. Ça explique en partie ce qui est en train de se passer. Et ça va expliquer aussi en partie ce qui va se passer dans les semaines et mois à venir. Alors, je disais, comme vous vous rappelez, que économiquement parlant, il n'y avait rien de nouveau dans cette Turquie nouvelle. Eh bien, je vais vous donner quelques indications plus terre à terre, plus économiques. Alors, est-ce que cet islam politique a réussi à inverser à changer les mauvaises habitudes et les faiblesses structurelles de l'État républicain, de ce qu'il a hérité lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2002? Eh bien non. En matière d'éducation, et c'est un pays très jeune, comme vous savez, comme beaucoup de pays en développement, en matière d'éducation, la Turquie, qui fait partie de l'OCDE, et donc du coup de tous les classements de l'OCDE, PISA, etc., est de loin le dernier avec le Mexique en matière de la qualité de l'éducation. Les langues étrangères, tout ça, c'est très très limité, en tout cas. Pas suffisant pour faire démarrer ce pays ou faire autre chose en matière d'économie, tout simplement. Alors, la recherche et le développement, ça va avec l'éducation, pareil. Ce gouvernement a beaucoup fait pour dépenser un peu plus en matière de recherche et développement. Malheureusement, toujours pas assez. C'est un pays qui a absolument pas de... qui a le taux d'épargne le plus faible de la planète, je crois, ça tourne autour de 11%. Donc là, en plus, il n'y a pas de ressources naturelles comme du pétrole et le gaz, etc. Donc il n'y a pas de... La Turquie n'est pas un pays rentier, n'est-ce pas? Et maintenant, fuite de cerveau, pour la énième fois, parce que ce pays exporte des cerveaux depuis deux siècles, pour des raisons très différentes. Alors, c'est presque structurel, et la conjoncture actuelle, dont on a parlé indirectement, parce que aujourd'hui, tous les enseignants qui quittent la Turquie, c'est des cerveaux qui partent. Et ce qui peut arriver de pire à un pays, comme vous savez tous. Alors, ces faiblesses structurelles, est-ce que la nouvelle Turquie ou ceux qui se prétendent être représenter la nouvelle Turquie ont pu changer quelque chose assez vague de fond? Eh ben non, absolument pas. Au contraire, ils les ont malheureusement empirés. Donc je referme la petite parenthèse économique que j'avais ouvert. On a parlé de la politique. Là aussi, rien de nouveau. Et j'arrive à mon dernier chapitre, le volet diplomatique et militaire, affaires étrangères, etc. Donc là, il y a du nouveau. Là aussi, il y a du nouveau. Donc, on peut parfaitement prétendre au pouvoir en Turquie, à l'adjectif nouveau ou nouvelle. La Turquie, il faut savoir, depuis 1945, surtout, c'est-à-dire depuis la fin de la Seconde Guerre, eh bien, a été un satellite non déclaré de ce qu'on appelle de ce qu'on appelait à l'époque, on ne l'appelle plus comme ça, the free world, hein, le monde libre, par opposition au monde non libre, communiste, dont la Turquie, avec la Grèce, était le gardien du flanc sud-est. Autant la Bulgarie était un satellite déclaré de l'Union soviétique à l'époque, autant la Turquie n'était pas un satellite déclaré, mais il l'était parce que ce pays se caractérisait par un suivisme à la lettre, hein, n'est-ce pas, des grandes lignes de la politique étrangère occidentale à l'époque. Je vais vous donner juste un exemple. Il y a eu un vote historique important pour la Turquie, l'Algérie et la France à l'époque. C'était au Conseil de sécurité et je crois que c'était initié par l'Union soviétique et c'était sur l'indépendance de l'Algérie. Et la Turquie, qui était donc membre non permanent du Conseil de sécurité, a voté blanc contre, et les Algériens ont rayé ont mis la Turquie au banc et ont déclaré non grata jusqu'en 85 ou 86. Donc il y avait pas d'ambassadeur, donc pour vous dire. Et en plus, donc l'Algérie et la Turquie, la Turquie, l'Empire ottoman était l'ancien donc colonisateur, ça s'appelle pas comme ça. Et donc pour vous dire, donc c'était la Turquie a voté avec la France à l'époque, donc suivisme flagrant. Et puis donc faisant partie bien sûr de toutes les organisations de l'après-guerre, l'OTAN, Conseil de l'Europe en 49. L'OTAN en 52, avant l'Allemagne par exemple, c'est en 55 l'Allemagne, l'OTAN. Donc l'OCDE bien sûr, l'Union européenne 1959, 63, le premier accord, l'accord d'Ankara. Donc faisant partie vraiment du monde occidental. Hein. Le gouvernement en place a voulu changer ça. Et là, il y a littéralement du nouveau, et on va voir comment et quand. Moi, je situe le début du tournant à 2005-2006, lorsque le gouvernement avait garanti à l'époque l'ouverture des négociations d'adhésion avec l'Union européenne. Ça s'est passé en décembre 2004 et les négociations ont commencé effectivement en octobre 2005. Et là, ils ont commencé à regarder ailleurs. À regarder ailleurs, ça veut dire dans le monde arabe en particulier, dans le Moyen-Orient, dans le sud du pays, dans l'est du pays, qui... En fait, était ignoré, c'était terra incognita jusqu'à cette époque-là. Mais c'était un choix politique des Républicains. Ils voulaient ignorer ça, ils voulaient couper les ponts avec. C'était un moyen déguisé, enfin ouvert, de couper les ponts avec l'islam, en fait. Avec l'islam, tout ce qui était arabe. Alors, ce gouvernement a changé de position. Au début, ils ont présenté cette ouverture, cette nouvelle ouverture vers le sud et l'est comme étant des alternatives, mais comme des relations que la Turquie était en droit d'avoir. Et ça a eu du répondant. Ça a eu du répondant non seulement dans ces contrées-là, mais ça a eu du répondant aussi en Occident. Je voudrais vous rappeler que c'était l'époque où la Turquie avait commencé donc, les négociations d'adhésion avec l'Union européenne et le plus grand tabou politique qui existe depuis la Renaissance, comme quoi l'islam et les Lumières ne peuvent jamais aller ensemble. Évidemment, par la suite, ça s'est traduit en l'islam et la démocratie. Eh bien, on voyait pour la première fois, avec le début des négociations d'adhésion à l'Union européenne, une nouvelle formule qui apparaissait dans la littérature politique, savoir la démocratie musulmane, qui faisait le pendant à la démocratie chrétienne. Donc, grande curiosité, est-ce qu'on a trouvé le modèle ? Rappelez-vous, c'était l'étoile montante à l'époque, la Turquie, on ne parlait que d'elle, n'est-ce pas ? Allant vers l'Union européenne, démocratie. Donc, on peut parfaitement être musulman et démocratique. Alors, cet élan a été évidemment lu, a été noté par, dans le monde arabe, dans le monde arabo-musulman. Mais pour des raisons très différentes, en fait, pour des raisons très différentes par rapport aux dirigeants d'Ankara. Le monde arabo-musulman voyait exactement comme l'Occident, c'est-à-dire, ah, mais nous aussi, on est musulmans, nous aussi, on peut être, pas un jour aller devenir membre de l'Union européenne, mais on peut être démocratique, moderne, etc. Donc voilà, pourquoi pas. Ah, voilà, la Turquie a une dynamique intéressante, un processus intéressant à suivre. Alors ça, cet intérêt à l'est comme à l'ouest, au sud comme au nord, n'est-ce pas, qui devenait grandissant, a été interprété d'une façon très différente à Ankara. On dit, ah ben, voilà, nous, en fait, nous sommes les patrons du Moyen-Orient. On a déjà géré le Moyen-Orient, les Ottomans, alors on est peut-être les néo-Ottomans. Hein, les néo-Ottomans, on a... sûrement quelque chose à donner à ces contrées-là, à leur servir de modèle, etc. Grand problème, ils n'avaient pas les moyens de leurs ambitions. Il y a 1200, juste un petit exemple, on peut les démultiplier, deux exemples. Il n'y a strictement aucune mémoire institutionnelle au niveau de l'académie en Turquie, ni au niveau du ministère des Affaires étrangères par rapport à ces contrées-là. Il y a 5 arabisants, arabophones, pardon, mais ne sont pas arabisants, sont littéralement arabophones, 5 sur 1300 diplomates turcs. On ne va pas très loin avec ça, n'est-ce pas ? Donc... Alors, un manque colossal de connaissances par rapport à ce qu'on prétend gérer, hein, à ce qu'on prétend diriger, le lead, comme on dit en anglais. Et ça n'a pas marché, d'ailleurs. Sans parler donc des ressentiments historiques qui existent, surtout au Moyen-Orient, par rapport... à l'Empire ottoman déclinant, hein, où les Djemal Pacha et autres ne lésinaient pas à pendre haut et court les intellectuels et les activistes arabes à Damas ou ailleurs. Mais évidemment, quand on n'est pas au courant de ces choses-là, on croit qu'on est, que tout le monde vous attend. Donc, alors, je vous ai dit au début, diplomatiquement et militairement, il y a du nouveau. Alors, en quoi il y a du nouveau ? Ben, ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau, c'est un changement de cours des choses. C'est un changement politique majeur, n'est-ce pas ? Même si ça foire, c'est pas important. Alors, ce qui s'est passé, en fin de compte, c'est que non seulement cette volonté de régenter le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, ils étaient très, très copains avec les Tunisiens de Narta, par exemple, etc., c'est terminé. Mais ils ont toujours été très présents dans en Égypte avec le président Morsi, qu'ils ont conseillé. Donc, mais, et idem évidemment avec Bachar Assad, qui est devenu entre-temps un ennemi public numéro un pour les dirigeants d'Ankara. Mais ça, donc, ces échecs sont là. Et il faut lire la nouvelle politique étrangère de la Turquie sous cet angle-là. Donc, à force de pousser dans le Moyen-Orient et de prétendre à des choses qui n'existent finalement pas, eh ben, la Turquie a commencé à nuire à ses anciennes relations extérieures stratégiques avec l'Occident. Et on en est là aujourd'hui. Alors du coup, donc sorti de ces chimères anhistoriques, démultipliées par une surconfiance en soi et des erreurs aggravées par le manque de connaissances au sens vraiment donc avec un grand C, la doxa, enfin, donc. Connaissent rien aux pays arabo-musulmans. Alors aujourd'hui, on se retrouve en matière de politique étrangère. On va d'errement en errement, n'est-ce pas ? Entre la Russie et l'Iran, entre le Conseil de coopération de Shanghai, qui a été créé de toutes pièces par la Chine et la Russie, pour justement évincer l'islam de l'Asie centrale. C'est écrit dans leur Terms of Reference, n'est-ce pas ? Dans leur plan de travail. Un gouvernement islamique qui veut aller devenir membre de ce Conseil de coopération de Shanghai. Je veux dire, pour le Moyen-Orient, l'Union européenne, on n'en a pas parlé, bien sûr, quand je disais... Donc ces errements ont fini par nuire aux relations classiques de la Turquie. Eh bien, on en est là aujourd'hui. Et les négociations d'adhésion sont presque, sont pas au point mort, à mon avis. Elles sont de facto terminées. Il ne reste que le bout de fil qui y tient pour que ça se légalise, si vous voulez, un jour... peut-être avec le retour à la peine de mort et l'échec pour la suppression du visa Schengen vers la fin de l'année. Peut-être que ce fil de iure, ce fil qui manque, va achever la chose. Reste l'OTAN, bien sûr, reste l'OTAN. Et c'est le grand souci, d'ailleurs, des Occidentaux par rapport à cette Turquie nouvelle, qui a une politique étrangère nouvelle. Comment garder la Turquie dans le sein de l'OTAN ? Parce que c'est là-dessus, exactement là-dessus, que Poutine joue en proposant des missiles antiaériens SS-300 et SS-400, totalement, bien sûr, incompatible avec les armements de l'OTAN. La Turquie fait partie de l'OTAN. Alors, comment un pays qui fait partie de l'OTAN peut acheter des armements à la Russie ? Ça, donc, quand je disais errement, voilà, ils ont essayé l'an dernier d'acheter aux Chinois aussi. les mauvaises langues disent que les Chinois ont dit au début, est-ce que vous êtes sûr vraiment parce que eux-mêmes d'ailleurs, ils étaient, ils seraient pas ravis de partager leurs armements avec un pays membre de l'OTAN. Mais pour vous dire le niveau de sérieux qui gère la nouvelle, je dis bien la nouvelle politique turque. Alors, de la politique étrangère. On en est où ? Pas mal. Alors, je vais lentement terminer. Alors, aujourd'hui, et c'était le titre de ma conférence d'avant, Turquie cavalier seul, n'est-ce pas ? On en est encore là, je crois qu'on en est là, vraiment. C'est free rider, hein, vraiment un cavalier seul, imprévisible, vulnérable, structurellement, et toujours prêt à la surenchère. Donc, grand inconnu. Un pays qui devient autoritaire de jour en jour, pour moult raisons, mais je n'ai pas évoqué ça, parce que je ne voulais pas parler de l'actualité, on peut en parler maintenant dans les questions et réponses. Un régime autoritaire avec un appui populaire. Hein, un régime autoritaire avec un appui populaire, et ça c'est très important et c'est nouveau. Ballotté entre un déclin économique et des échecs de politique étrangère, ça n'arrête pas. C'est-à-dire, on descend un avion russe, après on fait la paix avec les Russes, on se chamaille avec les Israéliens, après on fait la paix, soi-disant, avec les Israéliens, contre vents et marées, et donc un pays qui, donc une nouvelle Turquie qui se cherche. Je ne sais pas si elle va se trouver un jour. Je m'arrêterai là. Merci.
Enregistré le 16 novembre 2016 à la salle Dupréel du campus du Solbosch, vous venez d'écouter une conférence de Cengiz Aktar, qui depuis 1999 est chroniqueur à Hatzik Radio sur les développements en rapport avec l'Union européenne, et il collabore occasionnellement à Libération, au Monde, au Financial Times. Auteur de nombreux articles, Cengiz Aktar a publié 10 livres, dont 3 en français, « L'occidentalisation de la Turquie chez l'Armatan en 1986 »,« Lettre aux turco-sceptiques chez Actes Sud en 2004 » et « Appel au pardon, CNRS édition en 2010 ». Son dernier livre, paru en turc en novembre 2014, porte le titre « Le manuel de la décentralisation ».
Radio Campus, Radio Bruxelles, Bruxelles, 92.1.